Attention, vous êtes arrivés dans les Monts de Demain, une chronique du parc naturel régional pour parler d'urgence écologique et climatique, mais aussi, surtout, de transition, pour imaginer ensemble les Monts de Demain.
Dans le cadre de la quatrième édition des rencontres Les Monts de Demain, le parc naturel régional des Monts d'Ardèche a invité le 22 septembre dernier l'autrice et philosophe Fanny Lederlin pour une conférence en lien avec son ouvrage Éloge du bricolage, souci des choses, soin des vivants et liberté d'agir. Nous avons pu la rencontrer à l'issue de cette conférence. Fanny Lederlin, bonjour.
Bonjour.
Alors, à 40 ans, après 15 années dans la com, vous décidez de vous reconvertir et de reprendre vos études. Vous vous dirigez vers un doctorat de philosophie. À quel besoin a répondu cette quête de sens ?
Ah ben, la réponse est dans votre question, à un besoin de sens qui arrivait effectivement au moment, au tournant de mes 40 ans. Je pense que je ne suis pas un cas isolé, que bien des gens vivent cette crise de la quarantaine au moment de laquelle ils se demandent quelle sera la suite de leur vie. Et je me suis rendu compte que je passais peut-être à côté d'un rêve d'adolescence, pas d'enfance, mais d'adolescence, qui était double, écrire et réfléchir philosophiquement. Il y a eu aussi un sentiment de dégradation de mes conditions de travail, non que j'ai un travail difficile, je travaillais en agence, c'était fort sympathique, avec des gens très drôles et intelligents, mais nos méthodes de travail ont beaucoup changé avec l'irruption des algorithmes, notamment dans la communication, ce qui faisait dévier un peu notre approche d'une approche créative à une approche plus scientifique, je dirais, rigoureuse et avec un retour sur investissement qui devait être beaucoup plus calculé. Et donc, peut-être que, sans le savoir à l'époque, ce que j'aimais dans mon travail, c'était le bricolage et que je sentais que j'étais en train de le perdre.
Est-ce que vous attendiez à ce que votre premier ouvrage, Les Dépossédés de l'Open Space, soit édité aussi rapidement ?
J'ai eu beaucoup de chance, en fait. J'ai même pas eu le temps de douter et de chercher un éditeur. C'est sans doute un chemin qui est rare. Mais après le premier chapitre, j'avais la chance d'avoir un contact au PUF qui a accepté de lire l'introduction et le premier chapitre de mon livre et qui me l'a tout de suite pris. Donc c'est vraiment un coup de bol.
En plus, c'est un éditeur qui gage de crédibilité, Presse Universitaire de France, c'est tout de suite, c'est encourageant.
Très encourageant, puis c'est une maison magnifique et qui est encore à peu près indépendante. Et l'autre coup de chance que j'ai eu, c'est, alors j'ai cru au départ que c'était une malchance, mais ça s'est avéré une chance, c'est que le livre est sorti un mois avant le confinement. Sa sortie en librairie était complètement compromise, les médias qui étaient prévus se sont tout de suite arrêtés, enfin voilà, le monde s'est arrêté. Je me suis dit, ok, c'est foutu, ça va passer à la trappe. Et étonnamment, pendant le confinement, on s'est tous mis à réfléchir au travail, à se poser la question du sens au travail, à se poser la question de la dégradation des bureaux, de notre vie au bureau, à réfléchir à ce qu'était le télétravail. Et tout cela, c'était des éléments auxquels j'avais réfléchi dans le bouquin. Donc finalement, il a pu trouver sa vie grâce à cette interruption et à cette réflexion collective que nous avons eue sur le travail.
Il est tombé à point nommé.
Voilà.
Et l'ouvrage qui vous amène ici aujourd'hui pour cette conférence Les Monts de Demain au Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, c'est Éloge du bricolage, souci des choses, soin des vivants et liberté d'agir. Qu'est-ce qui a motivé cette écriture, ce deuxième ouvrage ? Vous êtes parti de quel constat ?
Alors, le bricolage, ça va vous paraître étonnant, mais c'est l'atterrissage de ma thèse. C'est la dernière partie de ma thèse qui est vraiment consacrée à ce mode de pensée et d'action, parce que je le pense philosophiquement, même si je m'appuie quand même sur la dimension triviale du bricolage et ce qu'il est réellement, mais j'en tire des leçons pour penser et agir de manière alternative face à la crise écologique qui est la nôtre. Ma thèse étant consacrée à la question du pouvoir de la critique. Donc vous voyez que ce qui m'emmène au bricolage, c'est finalement un cheminement très théorique.
Ça n'a pas été un souci de plomberie à la base, non ? Comment on pourrait le croire comme ça de prime abord ?
Ni un souci de plomberie, ni une pratique véritable, bien que je sois collectionneuse et que je dessine aussi à mes heures perdues et que je considère ces deux activités, la collection et la pratique du dessin, comme des activités bricoleuses dans le sens où elles mettent en jeu la main et le regard que nous pouvons porter sur les objets qui nous entourent.
Vous collectionnez quoi ?
Je collectionne les sulfures. Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Pas du tout.
Vous savez, c'est fabriqué... Enfin, à l'origine, c'est l'une des spécialités de Venise, même si on en trouve partout ailleurs. C'est des espèces de boules en verre dans laquelle il y a des motifs, en général abstraits, mais de couleurs très vives, comme ça. Et j'ai commencé avec les sulfures de ma grand-mère et je collectionne depuis les sulfures.
Finalement, cet éloge du bricolage que vous faites, c'est aussi un retour au bon sens. Il y a un côté instinctif, peut-être, dans tout ça.
Bon sens, oui. Je garde bon sens. Instinctif, moins, mais bon sens, ça m'intéresse beaucoup. D'abord parce que c'est lié à une forme de rapport un peu humble, où il ne s'agit pas toujours de placer la rationalité et la raison au-dessus de tout. Donc il y a un peu une opposition avec la posture des Lumières, même si il ne s'agit pas de les remettre en cause. Mais simplement, ce bon sens, c'est un bon sens qui vient aussi du corps. C'est-à-dire qu'il s'agit d'entrer en relation avec le monde, avec les objets, d'entrer en connaissance avec eux, par la pratique plutôt que par la théorie, de commencer par les rencontrer, se faire prendre avant de prendre, les rencontrer, les agencer, les rencontrer charnellement avec son corps, les manipuler et par cette manipulation arriver à une forme de connaissance.
C'est une solution que vous présentez dans votre ouvrage comme une solution, en tout cas un des aspects de solution aux crises que traverse notre monde, finalement, écologique, parce qu'on peut réutiliser des choses. Ça aussi, c'est une façon de penser, une logique qui s'est perdue, finalement, cette logique du bricolage.
Alors, pas partout. Mais juste un point, c'est pas une solution que je propose, parce qu'une solution, justement, ça serait plus la logique opposée à celle du bricolage.
Ce serait pas de la philosophie.
Ça serait, si. Enfin, oui, non, vous avez raison. La philosophie n'arrive rarement à une solution. Mais ça serait de l'ingénierie, par exemple. Or, la logique bricoleuse, elle ne se rapporte pas à cette démarche-là. En revanche, c'est une façon, effectivement, de penser et d'agir qui peut être alternative. Et comme vous l'avez dit, est-ce que ça se perd ? Le fait de réutiliser des objets, de les réparer, de les utiliser pour fabriquer autre chose, comme on peut le faire avec l'upcycling, ça a disparu d'une certaine catégorie de la population, qui est la population qui a accès à une forme de confort, de vie urbaine, très contemporaine. Mais dans les populations les plus précaires et dans les territoires les plus reculés, on continue de bricoler. Donc c'est peut-être aussi qu'on a perdu ce regard porté sur cette manière d'agir avec les choses et qu'on le méprise un petit peu, sans doute parce qu'effectivement, c'est plutôt chez les précaires que ça se pratique, que le fait que ça ait disparu complètement. Non, ça n'a pas complètement disparu. En revanche, ce que je propose, moi, effectivement, c'est de se demander comment le faire ressurgir bien davantage dans nos vies contemporaines.
Vous disiez pendant la conférence que la nature bricole en permanence et que rien n'est calculé. Et quand on regarde autour de nous, c'est quand même plutôt efficace. C'est de ce paradigme-là qu'il faut s'inspirer.
Oui, vraiment, ça c'est un point très important. La nature, vous avez dit un terme qui est le calcul, la nature ne calcule rien en effet, et on pourrait même dire qu'elle ne sélectionne rien à proprement parler. Ce que fait la nature, c'est qu'elle est tolérante. Elle est tolérante aux multiples formes de vie qui surgissent parce que quand la vie se reproduit, eh bien, elle provoque des erreurs, des erreurs de copie de l'ADN, et donc les générations qui suivent ne sont pas exactement, strictement identiques à celles qui les ont précédées, et de ces erreurs peuvent naître des mutations. Mutations dont la nature se sert, entre guillemets, pour adapter les espèces à un environnement qui lui-même est changeant. Donc vous voyez qu'il y a dans la nature quelque chose qui est plus de l'ordre de la robustesse, pour prendre le terme d'un philosophe qui s'appelle Hamant, H-A-M-A-N-T, qui parle effectivement de robustesse pour l'opposer à l'optimum. La nature ne cherche pas l'optimum, de toute façon elle n'a pas de direction, elle n'a pas de sens, elle n'a pas de projet, simplement elle a une espèce de tolérance infinie aux mutations, et c'est grâce à ces mutations que les espèces sur le long terme sont si robustes.
En quoi le territoire du parc naturel régional des Monts d'Ardèche est pertinent pour partager cette analyse ? Est-ce que les gens, vous les trouvez plus réceptifs à vos propos, à votre analyse en zone rurale qu'en zone urbaine ? Est-ce qu'ici, ils sont plus connectés au vivant, ou finalement c'est partout pareil et c'est un a priori qu'on a ?
De l'expérience que j'ai, j'aurais du mal à tirer des généralités de ce type-là. Je dirais tout simplement que c'est parce que j'ai été invitée que je suis venue faire cette conférence, et que le fait que l'invitation vienne du parc régional des Monts d'Ardèche est déjà un signe de l'intérêt, effectivement, que peut-être localement, qui est posé sur le bricolage. Mais j'ai donné des conférences dans d'autres lieux, en zone urbaine, dans des écoles d'art, dans des écoles de design, auprès d'ingénieurs aussi. Et il me semble qu'à chaque fois, je trouve un écho qui est quand même plutôt positif, même si je n'ai pas la naïveté de croire que ce rapport au monde est dominant aujourd'hui, il est loin de l'être.
Ces rencontres, les temps d'échange après avec les gens qui ont assisté à votre conférence, j'imagine que ça nourrit aussi votre réflexion et ça vous pousse encore plus loin.
Ah oui, ça c'est sûr. Et déjà, pendant la conférence, on ne s'en rend pas compte quand on est spectateur, mais il y a les yeux, les regards, les hochements de tête qui sont très importants. Et j'ai senti là une audience très attentive et très bienveillante. Et c'est très agréable et ça permet de développer de façon confortable sa pensée. Et ensuite, les questions qui ont été posées étaient là aussi l'occasion d'aller toujours plus loin, d'aller peut-être plus dans le concret aussi. Et y compris quand elles sont critiques, d'ailleurs, les questions, c'est l'occasion de réajuster, d'arriver à plus de modération dans la façon dont on présente les choses, parce qu'il y a toujours une forme de radicalité quand on présente sans échange, alors que l'échange amène une forme de modération, peut-être d'humilité aussi, qui me va très bien et qui va très bien avec le concept de bricolage.
On dit jamais 203, vous travaillez sur votre troisième ouvrage d'ores et déjà, vous en êtes où ?
Plus qu'y travailler, il va sortir en janvier prochain et ce sera tout simplement le livre tiré de ma thèse, donc ça s'appellera Critique en crise, au puf toujours.
Merci beaucoup Fanny Lederlin.
Merci.
C'était votre chronique, Les mots de demain.